Variation en noir. Roman noir sur Radio PFM. Et littérature policière au pluriel. Variation en noir dans Variation, le dernier vendredi du mois. Guy Le Polarski au micro, vous écoutez Radio PFM et vous avez rendez-vous avec les littératures policières. Variation en noir, c'est une émission réalisée en collaboration avec 813, l'association des amis des littératures policières, et en particulier avec un membre éminent de cette association, Hervé Delouge, qui est avec nous au téléphone, non pas depuis la capitale, mais depuis la côte méditerranéenne. Hervé, bonjour, merci d'être partant pour une nouvelle saison radiophonique de Variation en noir. Voilà.
Alors, je suis sur une côte et on va gagner une autre côte d'ailleurs.
Ah bon ? D'accord.
Ben, je pense qu'on risque d'aller au bord de l'Atlantique.
Ouais, effectivement. Alors, nous allons commencer cette nouvelle série de Variations noires avec un roman dont nous nous sommes promis de parler, hein, Hervé, pour plusieurs raisons, mais avant tout parce qu'il nous a énormément plu. Il s'agit de Indio, qui est sorti un peu après le confinement du printemps dernier, et c'est tout un symbole parce que son auteur est lui toujours confiné, ultra confiné dans une prison italienne. Il s'agit de Cesare Battisti, dont nous dirons quelques mots. Un autre roman d'un auteur italien paru il y a peu nous a particulièrement plu aussi, Hervé, et pas seulement parce qu'il amène à réfléchir.
C'est d'ailleurs écho à l'histoire de Cesare Battisti.
Voilà.
Donc, voilà, c'est le roman impossible de Eri De Luca.
Voilà. Hein, et si, alors, si c'est vraiment trop court, parce que bon, nous aurons quand même des petites choses à dire sur ce roman, eh bien, nous en reparlerons dans un mois lors de notre prochaine émission, car il nous faut aussi aujourd'hui nous arrêter sur le palmarès 2020 des trophées 813 qui ont été dévoilés en septembre avec quelques surprises. Hervé, je te propose de commencer par parler du roman Indio, hein, donc l'auteur le redit, oui. Cesare Battisti, nous y reviendrons. Donc un roman qui est sorti au mois de mai dernier dans la collection Cadre Noir au Seuil. Donc effectivement, tu l'as annoncé, un roman qui se déroule sur la côte sud du Brésil, côte atlantique, dans un lieu nommé Cananeia, ce qui veut dire kilomètre zéro. Et donc, c'est un roman qui fait voyager, bien sûr, sur un autre continent, au-delà de l'océan Atlantique, mais aussi dans le temps. C'est un roman, on peut dire que c'est un roman noir, bien entendu. Il y a une énigme, il y a la disparition d'un des protagonistes, mais c'est aussi un roman d'aventure. On y croise Barberousse, et c'est un roman noir historique, Hervé, pourrait-on dire aussi.
Oui, il y a une chose par rapport au roman qu'on connaît depuis Les Habits d'ombre, sa première série noire de Cesare Battisti, c'est que c'est un roman qui, à l'inverse de beaucoup de romans de cet auteur, ne se passe pas en Italie, puisque Battisti est italien, a beaucoup écrit à partir de là, et surtout n'est pas un roman urbain. Mais cet endroit, Cananeia, il est quand même au sud du Brésil, sur la côte atlantique, il est quand même très particulier. C'est une petite ville de pêcheurs, il y a la mangrove, il y a les cocotiers, il y a la brise pleine de chaleur, il y a une espèce d'atmosphère un peu de lenteur, de torpeur, de temps non pas arrêté mais ralenti, et le récit va prendre aussi cette va prendre le temps. Et voilà, comme tu l'as dit, il y a les éléments du polar. Oui, il y avait un mot sur, comme tu l'as dit aussi tout à l'heure, Cananéa se trouve au kilomètre zéro. Un pas de plus et un bourgeon de désir vous naîtra dans la poitrine. Et là, il n'y a plus qu'à le laisser s'épanouir. Cananéa, c'est donc cet endroit où le narrateur qui est, je crois, agent immobilier à Sao Paulo, se rend parce que un ami à lui, Indio Fernando Pessoa, qui donne le nom au livre, a été retrouvé noyé en mer et pour le dire vite, notre narrateur va trouver dans l'endroit, dans l'appartement que louait Indio, des documents qui vont nous ramener en 1494, je crois.
Exactement, exactement.
C'est-à-dire au moment où à partir de, je ne sais pas, de la page 80 par là du livre.
85, Hervé.
Bravo. Quelle précision.
Je l'ai sous les yeux.
Et à partir de là vont alterner des chapitres dont l'un sera, d'un côté il y aura la progression de l'enquête sur la mort d'Indio et puis très vite sur la mort d'un autre, la mort suspecte d'un autre pêcheur, et en même temps cette plongée, comme tu dis, dans l'histoire, ou plutôt dans une espèce de contre-histoire, oui, du Brésil et de sa découverte, où on apprend bien des choses, c'est-à-dire que bien des années avant ce qu'on pensait être l'histoire de la colonisation des Indiens, enfin l'épée dans une main et la Bible dans l'autre, eh bien les documents qui sont découverts par le narrateur nous parlent de l'arrivée de ce navire qui s'appelle, je crois, le Soleil Couchant, qui est le navire de Barberousse et qui a à son bord un certain maître Cosme Fernandez qui va devenir une légende, il semblerait, d'après ce que Battistini nous met dans une postface, qu'à Cananéa, nombre d'endroits, de frontons, portes, de rues, qui est connu sous le nom de Mestre Bacharel.
Voilà, voilà. Il faut aussi signaler, donc, ce bateau là, le Soleil Couchant, et son capitaine ou commandant est un bateau arabe, hein, puisque Barberousse s'appelle en réalité Kair el-Din, mieux connu sous le nom d'Air el-Din, donc dit Barberousse.
Oui. Voilà. Et le bateau s'appelle Shams al-Gurub.
Voilà, voilà.
De son nom d'origine, dirons-nous.
Donc tu as raison, hein, de parler de contre-histoire, hein, parce que c'est aussi un retour sur cette chronologie contestée, hein, de la découverte des Amériques. On a tous en tête, bien sûr, Christophe Colomb, etc. Mais on sait qu'il y a beaucoup d'explorateurs, d'aventuriers, hein, qui ont croisé dans ces mers, sur ces côtes de l'Amérique au même moment.
Oui, tout à fait. Et même si tout ça se passe 30 ans avant le débarquement officiel, disons, dans l'histoire officielle, mais ce débarquement-là n'est pas accompagné de massacres, mais plutôt de création d'une cité indienne, d'un chantier, d'une armée. Il y a l'idée de la construction d'une utopie, même si même si l'œuvre de Maître Bacharel ne fut pas entièrement utopique, mais c'est en tout cas une contre-histoire, et c'est intéressant parce que Cesare Battisti, bon, de par son ce qu'il appelle son nomadisme forcé, lié à son histoire personnelle, s'est donc réfugié pendant 15 ans au Brésil, et comme il le fait toujours, s'est beaucoup nourri de l'histoire, de la culture locale, populaire, a appris le plus de choses possibles, a écouté aussi de nombreux récits, a rencontré des universitaires qui travaillaient sur cet autre versant de l'histoire. Et il dit d'ailleurs dans cette postface, en parlant de cette nouvelle version, une version qui, après une première lecture des documents accessibles, se révéla clairement ne pas tenir la route. Ça, c'est celle qui disait que Bacharel n'était qu'un hors-la-loi abandonné par les Portugais. Et il ajoute, voilà, c'est ça, de plus en plus convaincu que Maître Bacharel avait été délibérément écarté par l'histoire officielle, victime d'un révisionnisme historique au profit de la seule gloire des conquistadores européens, je me mis à l'œuvre dans le but de rendre justice à ceux qui font l'histoire, mais n'ont pas survécu pour l'écrire. Voilà ce qui me semble bien résumer le versant, de réhabilitation historique qui est un des versants de ce livre, mais qui, comme tu l'as dit au début, est par ailleurs un roman d'aventure, parce que justement dans les chapitres consacrés à cette fin du XVe siècle, il y a des aventures maritimes, des aventures guerrières, voilà.
Des rencontres entre peuples, quoi, hein, qui se découvrent mutuellement.
Voilà, la découverte mutuelle, les frottements, l'acclimatation. Et puis, d'un autre côté, il y a un roman noir bien réel, les meurtres qu'on a évoqués, les meurtres en mer, avec les magouilles d'un promoteur immobilier dans cet endroit qui est un peu idyllique, un peu oublié de tous, mais que d'aucuns n'oublient pas pour y installer un tourisme fructueux. Et avec avec les opérations immobilières qui l'accompagnent, et puis avec aussi la venue d'un enquêteur, je crois que c'est le commissaire Fuligine, dont le narrateur avait déjà croisé la route à ses dépens bien des années avant, quand il était considéré comme un élément subversif à l'université de la capitale. Voilà, donc il y a aussi tous les éléments du polar, du roman noir dans ce livre très très réjouissant, parce que justement qu'il y a des facettes multiples et toutes passionnantes.
Oui, et effectivement, moi j'ai été t'as évoqué des précédents romans de Cesare Battisti qui étaient plus noir urbain, comme tu l'as dit, et là moi j'ai été vraiment surpris, quoi, parce que on part complètement ailleurs. C'est riche, c'est documenté, les personnages, que ce soit les personnages d'aujourd'hui, hein, et notamment donc Indio Pessoa, qui est un personnage qui vit de sculpture, qui a pour le projet de parcourir la distance entre Canaia et Sao Paulo en vélo, enfin qui travaille sur Maître Bacharel, mais bon, et donc dont la noyade est une énigme qui amènera d'autres énigmes. Donc tous ces personnes, le narrateur bien sûr, hein, et les rencontres fortuites entre le narrateur et Indio, tous ces personnages sont vraiment très 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 forts, très bien amenés. Et puis en contrepoint, donc les personnages donc on a déjà évoqué Barberousse, Bacharel de ce début du fin des années 1400, la fin des années 1400, c'est vraiment c'est vraiment étonnant. Et puis aussi une écriture qui, enfin, j'ai trouvé aboutie. Un petit extrait. À Cananéa, la nuit ne tombe pas. Elle se pose sur l'eau avec hésitation, prête à reculer à tout moment, comme dans l'incertitude d'un premier baiser. Pendant ce volettement d'ombre et de lumière enlacée, on ne sait plus où commence une île et où se termine une autre, où est le ciel et où est la terre. Cananéa est son kilomètre zéro, après lequel il n'y a plus de repères. Se retirer ou se livrer à l'insoutenable souplesse des éléments. C'était une option, j'avais un jour choisi la fuite, ce retour n'était pas prévu. Donc,
exactement, c'est un très bon exemple, parce que c'est... on aimait l'écriture de Cesare Battisti auparavant, mais là, il y a comme une espèce de... l'atmosphère a saisi aussi l'écrivain, c'est-à-dire qu'il y a comme une espèce de il prend le temps, il y a une espèce de beauté de la langue qui va avec la beauté des lieux, un côté paisible, apaisé, même s'il s'y passe des aventures et des choses dramatiques. Mais c'est vraiment en symbiose avec ça, et comme tu dis, la réussite est parfaite, parce qu'on aurait pu, on peut toujours craindre le fait que, évidemment, ce qui est raconté actuellement soit raconté avec vivacité, précision, dynamisme, mais les parties qui renvoient à la fin du XVe siècle sont tout aussi vivantes, les personnages sont tout aussi incarnés, et ça c'est quand même une vraie prouesse quand même, hein, qu'on voit aussi bien vivre Baiana, Indio Pessoa, le narrateur, que Barberousse ou que Maître Bacharel, ou que les autres personnes qu'il croise. Voilà.
Alors, une prouesse d'autant plus remarquable, Hervé, que on va en venir donc à Cesare Battisti, à l'auteur, que donc ce roman, c'est ce que nous explique Cesare Battisti dans la postface, a été écrit et terminé fin 2018, et cette postface, par contre, est signée du 10 juin 2019, et elle a été écrite à Oristano. Alors, Oristano, c'est une ville de Sardaigne, et connue pour une prison, pour sa prison, avec des quartiers haute sécurité.
C'est là où Cesare Battisti est enfermé, en quartier de haute sécurité,
voilà.
Comme on appellerait ça ici, en tout cas. Oui, c'est ça.
Donc, alors, c'est vrai que quelque part, donc quand on connaît l'auteur, quand on connaît son parcours, sa situation actuelle, on cherche un petit peu dans le roman où il peut se cacher. Derrière quel personnage se cache-t-il, ou derrière quel personnage aimerait-il se cacher? Mais en réalité, donc le livre a bien été écrit avant. Bien entendu, le moment où il a été enlevé, on peut dire les choses comme ça, hein, dans des circonstances étranges, par les autorités italiennes, alors qu'il demandait l'asile en Bolivie. Et voilà,
il avait eu l'asile accordé du temps de la présidence de Lula.
Au Brésil,
oui. Au Brésil, oui.
Il y avait...
Il y a quelque chose qui, justement, ce qui est très, très intéressant, c'est en ça que c'est avant tout, c'est pas une autobiographie cachée, c'est-à-dire que ça nous donne à... ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est vraiment ce désir de répercuter, d'abord de continuer dans le roman noir, de faire une fiction noire, ce qui est le genre où a œuvré et excellé Cesare Battisti, et par ailleurs celui aussi de répercuter cette autre histoire ou contre-histoire du Brésil, et de revaloriser aussi toujours ces oubliés, ces opprimés et massacrés qu'ont été les Indiens. Mais il y a, voilà, où il y a, à mon avis, un écho, c'est par rapport à ce passage que je citais où il disait, comment dire, le personnage de, parce que évidemment le narrateur peut avoir des aspects qui peuvent rappeler certains côtés de Cesare Battisti, mais quand il dit que Bacharel avait été délibérément écarté par l'histoire officielle et victime d'un révisionnisme historique, pour moi, ça fait écho à l'histoire même des années que moi je n'appellerais pas de plomb, mais ce que je crois Eri De Luca appelle les années révolutionnaires en Italie, c'est-à-dire la décennie qui va de 1969 à 1979, dont Cesare Battisti, année insurrectionnelle, dont Cesare Battisti, parmi des milliers, des dizaines de milliers d'autres, ça n'a rien à voir avec, je ne sais pas, Action Directe ou la RAF en Allemagne, fut un acteur et qui furent vaincus. La question n'est pas de porter un jugement là-dessus. C'est aussi ce que Eri De Luca, quand on parle de son personnage, il dit à un moment « l'homme d'une époque vaincue et révolue ». Et justement, ben, y a quand même un écho à cela, c'est-à-dire à une histoire où délibérément, ça, là je parle de l'histoire de cette décennie pas si vieille en Italie, délibérément occultée par ceux qui... qui ont écrasé ce mouvement,
l'histoire des gagnants vus par les gagnants. Effectivement, donc oui, bon, tu l'as dit, hein, les auditrices, les auditeurs qui ne connaissent pas auront compris. Cesare Battisti, bon, est né en 1954 au sud de Rome. Oui. Il vient d'un quartier populaire et à 21 ans, donc durant ces années, effectivement, qu'on qualifie souvent d'années de plomb, mais qui correspondent, enfin, l'expression que tu as citée est plus exacte, hein, des années révolutionnaires. Il a rejoint la lutte armée. En 1981, il s'évade de prison, on ne va pas rentrer dans le détail, hein, il s'exile au Mexique et il vient par la suite s'installer en France. Et c'est en France qu'il publiera son premier livre, Les Habits d'ombre, à la série noire. Il écrit, on peut le dire aussi, hein, Indio est écrit en français, c'est sa langue d'écriture, hein, puisqu'il est resté quand même en France plus de 20 ans. Là aussi, hein, des démêlés avec les autorités l'ont amené à se réfugier au Brésil où il est resté pendant 15 ans et voilà, donc fin 2018 il a dû fuir le Brésil et début 2019 les autorités italiennes donc l'ont enlevé dans des circonstances particulières pour le ramener en Italie, en prison où il a été condamné à la prison à détention à perpétuité par contumace. Et en Italie on sait que
même les ce qui au moment de l'extradition les 30 ans, enfin ce qui était déjà énorme, mais qui avait été en gros qui lui avait été promis, se sont transformés en la prison à perpétuité. Voilà, et les conditions actuelles de détention sont assez terribles,
voilà,
on peut en savoir. J'indiquerai juste que comme c'est une période occultée devenue très mal connue, sur ces années italiennes, moi je conseillerais, il y a eu d'autres livres, mais il y a un livre aux éditions La Fabrique de Marcello Tari qui s'appelle Autonomie, Italie, les années 1970, qui est un qui montre bien toute une effervescence sociale, politique, culturelle qui est comment dire, qui va bien au-delà des classifications et des simplifications que les médias ou les pouvoirs ont l'habitude de donner.
Et puis donc ce roman impossible, hein, d'Eri De Luca, mais je pense on va se garder un peu de temps pour en parler lors de notre prochaine émission.
C'est une autre splendeur aussi. Alors voilà, pour et impossible, ouais. Le grand roman italien.
Alors pour terminer, Hervé, quand même signalons que il est possible de signer une pétition en ce moment de soutien à Cesare Battisti. J'en lis un rapide extrait. Donc, nous persistons à défendre Cesare Battisti, non pas parce qu'il serait innocent, parce qu'il serait écrivain, parce qu'il serait sympathique ou toute autre raison, mais parce que de personne. Son histoire, il appartient pleinement à cette fraction de la population italienne, jeune et moins jeune, qui, dans les années 70 du siècle dernier, est entrée pendant une décennie en sécession avec la vieille société, sa soumission au capitalisme débridé et ses forces politiques institutionnelles. Donc nous persistons et persisterons à soutenir Cesare Battisti dans sa bataille pour obtenir que ses droits lui soient rendus, notamment dans un premier temps celui à une détention normale, et nous le soutiendrons dans son combat pour obtenir auprès de l'ONU et du Conseil de l'Europe que soit reconnu le caractère illicite de son enlèvement et de sa détention. Donc ça, c'est important à signaler, puisque Cesare Battisti est détenu dans des conditions d'isolement. Enfin, il est considéré comme... Il est placé sous le régime AS2 hein, en Italie, réservé aux terroristes. Apparemment, il a été transféré dans une prison de Calabre et il sera en compagnie de 18 prisonniers d'Al-Qaïda. Donc c'est vraiment une détention inhumaine.
Bah oui, que dire de plus, oui.
Voilà, hein, donc à lire en tout cas, soutenir Cesare Battisti, c'est aussi lire donc Indio hein, aux éditions du Seuil dans la collection Cadre Noir. Radio PFM, Variation en noir. Et voilà, je vois que Bernard est ému à écouter celui qu'on a surnommé le Mozart de la guitare rock, Eddie Van Halen. Alors, avec
un hommage.
Un hommage, oui, Eddie Van Halen, hein, qui est mort le 6 octobre dernier. Et quand même, un hommage et quelque part un lien avec la conversation, Hervé, que nous avions juste auparavant, puisque ces années révolutionnaires en Italie ont été marquées par l'enlèvement d'Aldo Moro, le président de la démocratie chrétienne, en 1978. Et donc, en 1978, eh bien, on pouvait écouter ce premier disque de Van Halen, intitulé tout simplement Van Halen, avec ce morceau Eruption, où Eddie Van Halen s'est fait connaître comme un des guitares héros les plus importants de cette époque. Hervé, Van Halen,
oui, tout à fait, ouais. Oui, non, je suis bien d'accord, et c'est un écho malin et émouvant à la fois. Voilà.
Donc, Hervé, nous reviendrons sur, comme je m'en doutais hein, quand j'ai présenté cette émission, sur Éric de Lucas Impossible lors de notre prochaine
Oui,
émission, parce que...
impossible d'en parler en deux mots.
Exactement.
Et Indio de Cesare Battisti
Voilà.
était si riche qu'on ne pouvait pas l'expédier.
Et
Loin
comme
de
tout
là.
est, et comme tout est possible dans Variation en noir, ben nous parlerons donc d'impossible dans un mois. Mais je pense que ce roman d'Éric de Lucas aurait pu aussi s'intituler Tout est possible. Donc, comme il nous reste peu de temps,
Oui.
ben il faut quand même parler des trophées 813. Alors, bien sûr, année spéciale particulière, contexte particulier, donc remise des trophées aussi un peu particulier. D'habitude, cette remise des trophées se déroulait au moment de l'Assemblée générale annuelle de l'association, qui n'a pas pu avoir lieu, bien entendu. Et donc, mais les trophées ont quand même été annoncés. Et puis, vous pouvez consulter des vidéos hein, de présentation de ces
Oui, sur le blog 813,
quatre trophées. Alors, Hervé, avant d'énoncer hein, les différents lauréats, on sait que 2020, c'est aussi le 40e anniversaire de l'association.
Oui,
Entre parenthèses.
absolument. Et donc, ça fait 40 ans que l'association décerne
Voilà, donc c'est
des
bien ça.
trophées qui ont
Voilà.
l'originalité d'être le vote être un vote populaire, comme l'on dit,
Ouais.
puisque c'est un vote d'adhérents et non pas de critiques, de spécialistes, voilà. Et donc, c'est à peu près 140 adhérents qui font le choix de voter dans les différentes catégories.
Voilà. Alors, pour la petite histoire, donc à l'occasion de ses 40 ans, 813 a quand même sorti un numéro spécial hein,
Oui.
de c'est le numéro 136 de sa revue avec une super illustration en couverture d'un nom qui est connu, mais le prénom l'est moins, hein, puisqu'il s'agit de
Oui.
Iris. Oui, voilà. Hein, donc très beau numéro.
La
Hein,
fille de notre ami Jean Bernard, qui est une jeune artiste pleine de talent et un numéro qui a fait une très belle couverture originale pour un numéro intitulé Forty Guns en référence au film de Samuel Fuller. Samuel Fuller, un des invités du Festival de Reims au moment où justement naquit 813 en 1980. Enfin voilà, tout ça se tient.
Alors, je disais quatre trophées, mais non, cinq
Cinq,
trophées. Alors,
oui, car il y a un trophée qui a été rétabli cette année, qui est le trophée de la nouvelle, qui avait été supprimé il y a une quinzaine d'années. On considérait que les gens n'en lisaient pas. Et ben ça a d'ailleurs, pour la première année, ça a un peu tordu le cou à cette idée fausse, puisque c'est une des catégories qui a eu le plus de votes. Donc
Alors,
voilà.
ben, puisque tu en parles, nous allons tout de suite révéler le lauréat. Nous en avons parlé ici même.
Un peu mal à l'aise pour le faire,
Oui,
quand même.
je sais. Hein, donc, c'est un recueil de nouvelles paru chez Asphalte, banlieue parisienne noire, que tu as coordonné, Hervé.
Bah
Ouais.
oui, donc évidemment, j'étais très content de ce résultat parce que à cause bah voilà, comme tu dis, on en a déjà parlé sur cette
On
antenne,
en
à
a
cause
parlé,
évidemment
oui.
du projet lui-même de nouvelles sur les banlieues de Paris et pour tous les auteurs qui m'ont fait la joie d'y participer.
Ouais, de contribuer. Donc, un certain nombre
Oui,
d'auteurs, d'ailleurs, qui
évidemment,
étaient
surtout si j'y tente,
présents,
évidemment, ça fait plaisir.
ouais,
Oui.
qui étaient présents le 1er mai 2019, hein, à Arras, au Salon du Livre, puisque voilà, ce recueil était sorti à ce moment-là. Je rappelle que les trophées 2020, en fin de compte, récompensent des ouvrages sortis en 2019, l'année
Oui, c'est
précédente.
cela. Voilà, pendant l'année, oui.
Alors, donc, un premier donc conseil de lecture, banlieue parisienne noire, chez Asphalte. Alors, ensuite, le trophée du roman francophone, De bonnes raisons de mourir, Hervé, de Morgane
De
Audic.
Morgane Audic, qui est paru chez Albin Michel. Je crois que c'est le deuxième roman de cet auteur. c'est un, je vais pas avoir le temps de m'étendre, mais c'est un, à la fois un vrai thriller qui est, comment dire, avec de l'action, du suspense et tout, mais il a ce côté particulièrement passionnant de se dérouler dans la zone d'exclusion des alentours de la centrale nucléaire de Tchernobyl, sur laquelle je crois qu'il n'y a pas besoin de revenir. Mmh. Et donc, il y a à la fois cela avec ceux qui s'introduisent sur le site, ce qu'on appelle les stalkers, et puis il y a aussi le conflit entre ce mélasse-là, le conflit entre la Russie, l'Ukraine, la guerre civile qui se déroule dans le Donbass, et donc tout ça font un roman assez foisonnant et assez coup de poing et fouillé, voilà. Donc un bon trophée français.
Voilà, de bonnes raisons de mourir, Morgane Audic, Albin.
Et alors à l'inverse, je vais me tourner vers toi pour révéler le trophée du roman étranger qu'on appelle Michel Vita, qui a été donné à. Moi, je peux citer l'auteur à. Un auteur qu'on aime beaucoup, je crois, qui est Leonardo Padura, pour La transparence du temps chez Métellier, dont tu peux peut-être nous dire quelques mots.
Oui, tout à l'heure, je disais que ces trophées apportaient quelques surprises, et pour moi, c'est vraiment une surprise, une très bonne surprise, de voir que Leonardo Padura l'a obtenu, parce que ça fait quelques années que je participe à ce vote des trophées, et très très souvent je désignais Leonardo Padura en me disant finalement il l'aura jamais ce trophée 813, et puis c'est lui qui l'a obtenu, et j'en suis vraiment très très content. Alors c'est La transparence édition Métellier, c'est un roman qui est sorti en janvier 2019, donc c'est assez loin. C'est une nouvelle rencontre avec Mario Conde, l'enquêteur littéraire, le personnage fétiche de Leonardo Padura. Et là aussi, un petit peu comme dans le roman de Cesare Battisti Indio, il y a un voyage dans le temps. C'est aussi un sujet, revenir sur l'histoire des événements historiques qui réapparaissent.
Déjà fait dans d'autres romans, avec toujours un énorme talent.
Tout à fait. Ouais. Et là, il y a ça aussi. Et il y a quelques points communs, puisque on parle cette fois de l'Inquisition. Donc, on est en Espagne des années. Des premières années du millénaire, et donc cette histoire qui ressurgit dans le Cuba d'aujourd'hui, avec toujours ce regard aussi sur la vie cubaine actuelle, parce que particularité, Leonardo Padura a toujours vécu et vit toujours à Cuba. Donc un trophée vraiment pour le roman étranger, un bon trophée 813, à mon avis.
Un très grand plaisir que ce couronnement-là.
Oui. Voilà. Alors ensuite, trophée bande dessinée. Donc là, moi, je suis un petit peu moins cet aspect-là, mais c'est nos directions.
J'avoue que j'invite nos auditeurs à aller regarder sur Internet ou ailleurs, et en librairie, bien évidemment, ou en bibliothèque. C'est Moineau... pour un album qui s'appelle No Direction chez Sarbacane. Après, je ne suis pas du tout spécialiste de bande dessinée, donc c'est un peu difficile pour moi. Je sais simplement que Emmanuel Moineau est un auteur de BD talentueux et confirmé. Je crois que c'est lui qui a repris après Tardy les aventures de Nestor Burma.
Et puis il y a de très très bons connaisseurs de BD, d'amateurs dans 813, donc on peut leur faire confiance.
Notamment un adhérent de très longue date aussi, qui est Frédéric Prieux, grand connaisseur de bande dessinée, qui a site qu'on peut aller voir, oui.
Dernier trophée, Hervé, le trophée Maurice Renaud qui récompense le meilleur ouvrage critique, magazine, blog, article.
Alors, on était dans une année où il n'y avait pas, à ma connaissance, et à celle, semble-t-il, des votants d'ailleurs, il n'y avait pas des ouvrages marquants comme il peut y avoir ceux de Benoît Tadier sur le roman noir américain, de Vincent Platini sur le polar sous le Troisième Reich, etc. Et d'autres, hein, mais je veux dire qu'on n'était pas dans une année où il y avait des ouvrages de référence de cet ordre-là. Et il y avait plusieurs blogs en concurrence, mais en fait, c'est un numéro spécial d'une revue, la revue des Amis du roman populaire, qui s'appelle Le Rocambole, et c'est un numéro avec au moins un dossier de une grosse centaine de pages, si mes souvenirs sont bons, consacré à l'auteur très populaire de très nombreux livres, qui s'appelle J.J. Arnaud, à ne pas confondre avec le Georges Arnaud du Salaire de la peur.
Tout à fait, oui.
J.J. Arnaud qui a écrit, je ne sais pas, moi j'ai des souvenirs dans les années 70, 80, 90, il a écrit aussi bien des romans, toute une saga de science-fiction assez connue qui s'appelle La Compagnie des Glaces, mais il a écrit de très nombreux romans policiers, notamment au Fleuve Noir, comme Le Coucou, La Tribu des Vieux Enfants, il y a énormément de romans, un vrai romancier populaire et un vrai romancier avant même qu'existe le néo-polar qui parlait de vie quotidienne, de personnages de la vie de tous les jours, qui parlait aussi des manipulations, des secrets d'État, enfin voilà, un vrai romancier populaire, donc un dossier précieux.
Merci beaucoup Hervé, c'était donc Variation en noir dans Variation le dernier vendredi du mois, une émission de Radio PFM réalisée en collaboration avec 813, l'association des Amis des littératures policières et avec en particulier Hervé Delouche. Hervé, au revoir, bon couvre-feu.
Eh ben merci Guy, oui. Merci Bernard et bonne lecture et bonne journée à tous.
Voilà, donc bon couvre-feu à toutes et à tous avec de très bonnes lectures en noir ou pas et rendez-vous dans un mois.